Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 29 octobre 1992.
Je vous rappelais hier pourquoi on ne peut pas commencer la philosophie première, la métaphysique, par le « je suis ». Le jeu étant plus puissant, c'est-à-dire absorbant en quelque sorte l'être, et je resterai devant le je suis. Il faut partir de ce jugement d'existence qui a un réalisme fondamental. Que le je suis n'a pas ce réalisme fondamental par lui-même. Il peut l'avoir si, de fait, je le lis au ceci est. Puis l'interrogation, donc le passage de ceci est à l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être. L'idéaliste n'interroge plus. Pourquoi ? Parce qu'il reste dans le développement propre de ses idées. L'idéologue n'interroge plus. Ça fait comprendre des quantités de choses. Ils deviennent des sourds. Ils développent leur idéologie sans s'occuper absolument si le monde périt. C'est le développement de leur idée. Au contraire, celui qui veut être attentif à la réalité, celui-là interroge la réalité pour la connaître. La réalité, c'est nous et c'est toutes les autres réalités. Et quand il s'agit de la philosophie, c'est l'homme. L'homme qui intéresse le philosophe en premier lieu, et surtout la philosophie première, puisque c'est l'être le plus parfait que nous expérimentons, et parce que c'est l'être le plus parfait que nous expérimentons, c'est lui qui nous permet de mieux saisir ce qui est. Mais pas le je suis, mais l'être humain, Pierre, Jacques, Jean et moi-même, mais comme une réalité existante. L'interrogation, ce passage de ceci est à qu'est-ce que c'est que l'être. Alors je vous disais hier en terminant, c'est intéressant de voir le langage. On doit être attentif au langage. Le philosophe est attentif au langage, surtout dans la période de l'interrogation. Parce qu'il passe d'une forme concrète à une forme abstraite. C'est toujours curieux, ça. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est abstrait. Vous voyez, la forme grammaticale de l'être, de l'interrogation. On passe du concret individuel, ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et Heidegger se coupe de l'expérience, les étant, puisqu'il faut les nier pour que l'être apparaisse. Vous voyez, ceci nous fait comprendre le mouvement dialectique qui, depuis Hegel, est si fort Mais avancer où? Dans l'intelligence et non plus dans la réalité. C'est ça qu'il faut bien saisir. Il nie les étangs. Et seule la pensée me rend présent l'être. Il faut penser l'être. Mais je suis coupé de toute expérience. Par le fait même, je ne peux pas revenir à l'expérience. C'est en réfléchissant sur ma propre pensée que je désire découvrir l'être. Et je dis là, on est devant une voie sans issue. Et du reste, c'est ce qui est arrivé pour Heidegger. Une voie sans issue. Pourquoi? Parce que je ne saisis pas l'être tel qu'il est, mais je le saisis tel que je le pense. Et l'être tel que je le pense n'est pas l'être existant avant ma pensée. Je ne saisis plus que l'être que je pense. Et ne saisissant plus que l'être que je pense, je ne saisis plus dans son état premier. Oui, je me coupe de la réalité physique. Des réalités qui sont autour de moi pour m'enfermer dans ma manière propre de connaître. Et donc je reste dans l'intentionnalité, le mode intentionnel de mes idées, de ma pensée. Bon, je demeure, si je prends le point de vue critique, je demeure dans l'appréhension. Et je ne saisis plus ce qui caractérise le jugement. C'est ça qui est assez impressionnant. Parce que Heidegger a une intention très nette de dépasser la scolastique traditionnelle, la métaphysique dite thomiste. Il veut dépasser cela en prétendant qu'il n'y a pas de concept de l'être. Et il reste dans la pensée de l'être. Il demeure dans la pensée. Donc il reste dans le concept de l'être. Donc là, on voit qu'il ne va pas assez loin dans sa critique par rapport à la scolastique décadente, par rapport à la métaphysique scolastique devant laquelle il se trouve. Tandis que si je suis attentif au jugement d'existence, ce jugement d'existence porte sur une réalité physique, sur moi en tant que réalité complexe. L'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» vient de la réalité que j'expérimente. Autrement dit, posez la question de cette manière pour que vous voyez bien la différence entre la position de Heidegger et celle que nous prenons. Et je dis, c'est important pour nous, parce que Heidegger est quand même le dernier qui veut rejoindre l'être. Alors, très facilement, on le suit. On disait à un moment, tous les jésuites sont hegeliens et tous les dominicains sont heideggeriens. Parce que Heidegger exerce un pouvoir de séduction très fort. Il faudra lire un peu de Heidegger si vous n'avez jamais lu. C'est important. Parce que au moment où on essaie d'entrer dans la métaphysique, il faut comprendre la position de Heidegger pour ne je pose la question. La signification de « est » est-elle différente de la signification de « être » ? Et tout est là, au point de vue critique. Pour Heidegger, la signification de « est » dans « ceci est », c'est l'étant. Commentaire des métaphysiques dit m'intéresse parce qu'on retrouve donc un néoplatonisme chez Heidegger. Je reprends pour que vous compreniez, pour que vous saisissiez bien. Ça te va dire l'erreur des néoplatoniciens et de Platon, quoi. Des néoplatoniciens et de Platon. C'est d'introduire dans la signification des réalités qu'on connaît, la manière dont on les connaît, la manière dont on connaît le blanc. Ce n'est pas le blanc. Le blanc est autre chose que la manière dont je le connais. C'est pour ça que je peux dire que la signification de blanc et la signification de blancheur, c'est la même. Bien que je connais blanc et blancheur de deux manières différentes. Blanc, je le connais par l'expérience. Blancheur, je le connais par l'abstraction. C'est la première induction. C'est l'induction la plus élémentaire, celle-là, que tout le monde fait. Qui est présente dans le langage. Je suis passé les multiples expériences de blanc. Les multiples me conduisent à l'unité de du blanc en soi, la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Vous trouverez ce genre de raisonnement très simple dans le commentaire de saint Thomas du De Hebdomadibus. Saint Thomas réfléchit beaucoup sur blanc-blancheur. On ne le dit jamais, ça. Parce que personne ne regarde le De Hebdomadibus. Le De Hebdomadibus, c'est de Boès. Et saint Thomas l'a commenté de façon remarquable. Et entre autres, il dit ça. Et il montre là la critique qu'il fait, lui, par rapport aux néoplatoniciens. C'est pour ça que saint Thomas ne peut pas être néoplatonicien, puisqu'il a critique. C'est d'introduire dans la signification des réalités qu'on connaît, la manière dont on les connaît. Donc on fait une espèce de mixture, et on n'a plus l'objectivité. C'est à travers ma subjectivité que je connais le réel. J'ai un prisme, ma manière de connaître, concret, abstrait. Et le langage le montre bien. Alors, appliquons ça à quelque chose de beaucoup plus important. Ceci est l'être. La signification de est et la signification de être est la même. Mais la manière de l'atteindre est différente. Ah, voyez comment Heidegger s'est mis le doigt dans l'œil. Quand vous mettez le doigt dans l'œil, vous ne voyez plus la réalité, vous ne voyez plus le dé. Vous voyez que c'est abstrait. Heidegger dit que ceci est, c'est les étangs. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ah, c'est l'opposé des étangs. Parce que c'est l'abstrait de l'être. Et tout Heidegger reposait dessus. Mais reposait dessus, c'est-à-dire qu'à partir de là, on voit le néoplatonisme d'Heidegger. La manière de connaître fait partie de la signification de la réalité que je connais. Oui, c'est un mode artistique de connaissance. L'artiste fait ça. C'est le propre de l'artiste. C'est le propre de l'inspiration de l'artiste. La manière dont il atteint la réalité renouvelle la réalité. au centre de la réalité. On ne demande pas ça aux philosophes. On demande aux philosophes de dire ce qu'est la réalité. Et donc le philosophe doit tout le temps être dans cette attitude critique de distinguer la signification de la réalité et la manière dont il la connaît. Et c'est très élémentaire, mais c'est très fondamental. Il faut dire le langage, il est là qui nous le proclame. Pourquoi blancheur? Pourquoi ce souci qu'on a tout le temps de passer à l'abstrait? Quelle drôle de manie. Pourquoi dire le verbe est être? Passer du présent à l'infinitif. Le présent, il est dans le temps. Ceci est. Voici l'agneau de Dieu. Ceci est. C'est le présent. Être. Ah, le présent a disparu. Et pas dire que être est dans le présent. C'est abstrait. Au-dessus du temps. Il y a une signification abstraite. Universelle. L'être. J'ai jamais vu l'être. Le vieux père Mandonné disait à la fin de sa vie, oh oui, l'être, on a l'intuition de l'être quand on a 40 de fièvre. Parce qu'on voit un petit nuage qui passe comme ça, là, on a l'intuition de l'être. L'être, vous l'avez jamais expérimenté. Moi non plus. Vous l'avez jamais intuitionné. Moi non plus. L'être est une abstraction. Je le porte en moi. Oui. C'est sûr. Ce que j'expérimente, ceci est. Alors, évidemment, l'être a un fondement dans la réalité. C'est bien évident, ceci est. Mais je suis passé du concret à l'abstrait. Alors, vous allez me dire, je pose la question, pourquoi cette manie d'abstraire? Et dans certaines langues, ça vient tout le temps. En allemand, la langue allemande, c'est tout le temps l'abstraction. Tout le temps. Le grec respecte beaucoup le concret et l'abstrait. Et si je suis attentif à mon langage, je suis très, très sensible au concret et je vois très bien comment l'abstrait vient de là. Et Saint Thomas n'hésite pas de dire que le concret c'est ens et l'abstrait c'est sc. Sc, c'est être. Ens, ce qui est. Quod est, ce qui est. Alors, vous voyez, je reviens un instant à ce que je disais hier. Si ma philosophie devient la philosophie du langage, il n'y a plus de métaphysique. Je crois que vous pouvez le comprendre tout de suite. Parce que dans le langage, je saisis l'être sous la forme d'un verbe. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est un verbe, c'est pas un nom. Donc c'est quelque chose de second. Puisque le verbe est toujours attribué au nom. Il n'y a plus des réalités existantes, mais il n'y a plus de métaphysique. Il ne peut pas y avoir une métaphysique du langage. Le langage n'est pas métaphysique. C'est normal, du reste, parce que le langage est humain. Et la métaphysique est au-delà de l'homme. Puisque c'est l'être. C'est l'œcuménisme le plus parfait. Caillou existe, et puis l'homme existe, puisque la vache. j'existe et que j'existe face à la vache, que le TGV existe sans que la vache le regarde. L'être, c'est tout ce que je vois, tout ce que je constate, ça existe. Et l'être a une dignité spéciale dans la personne humaine. Et c'est là où je l'expérimente de la manière la plus forte. Si je reste dans l'abstrait, qu'est-ce que c'est que l'être? Et que je dis que l'être n'est saisi dans toute sa pureté que dans l'intelligence, c'est-à-dire sous sa forme abstraite. Je reste devant l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je ne vais pas plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Et c'est pour ça que Heidegger a raison de dire ce qu'il y a de plus élevé, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est de poser qu'est-ce que c'est que l'être. Et on reste en attente d'une réponse. On reste enfermé dans son intelligence. Et Heidegger, au fond, quand il dit qu'est-ce que c'est que l'être, il dit c'est attendre la révélation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui est l'être. Il y a Dieu qui peut dire je suis. Alors on attend la révélation de Dieu. Et ça, c'est très intéressant, cette remarque. Parce que ça montre qu'une pensée néo-platonicienne est en attente de la révélation. Mais ne peut pas coopérer à la révélation. Au sens propre, puisque l'abstrait seul, du moins que l'abstrait a sa signification propre et limpide et pure. Quand je me pose, moi, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je sais que l'être, je le saisis que dans l'expérience. Et donc, je reviens à l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'être? Pour connaître qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens à l'expérience. Mais je reviens à l'expérience dans la lumière de l'interrogation. Et ma première expérience, ceci est, je regarde quelque chose de concret. Je me pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et pour savoir ce que c'est que l'être, je reviens à l'expérience, mais dans la lumière de l'interrogation. L'interrogation m'apporte une lumière, parce que ça canalise. Vous voyez, penser à son et lumière, dans le noir, on voit le tout. Vague, puis on projette une lumière, on interroge, on vous montre une partie simplement. Ceci est du 12e siècle, tout le reste est caché, la seule partie courante. Puis après, ah, le 13e siècle a ajouté quelque chose, et on ajoute comme ça. Oui, c'est l'abstraction qui donne la lumière. L'interrogation vous donne une lumière. Puisque toute votre intelligence est tendue dans l'interrogation. Quand vous interrogez vraiment, vous frappez à la porte. Et quand vous frappez à la porte, on ouvrira. Quand vous dites qu'est-ce que c'est que l'être, mais en toute vérité, hein, pas simplement, je répète, vous revenez à la réalité. Même. Qu'est-ce que c'est que l'être? En moi, je ne regarde plus l'homme, je ne regarde plus la nature humaine, je ne regarde plus tel ou tel, je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'être qui existe en moi. Et c'est la seule chose que je cherche. C'est pour ça que la philosophie première commence par l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, vous comprenez que que si l'interrogation est une chose si importante, et c'est vrai, pour progresser, il faut interroger. Or, arrivé à l'âge de 25 ans, on n'interroge plus. Le gosse interroge. Il faut revenir comme des petits enfants pour interroger. Des enfants métaphysiciens qui interrogent. Venez. Pas seulement qui crient, mais qui interrogent. Qu'est-ce qui me fait interroger? Quel est le levier qui me permet d'interroger? C'est l'admiration. On interroge quand on admire. L'admiration est un état affectif qui permet à l'intelligence de s'écarter, de s'éloigner de la réalité concrète que j'expérimente. Quand j'expérimente, je colle au réel. Quand j'interroge, je prends de la distance et j'interroge. Quand je suis dans l'expérience, je suis engagé avec la réalité que je touche, que j'atteins. Mais j'ai le nez dessus, donc je vois plus ce que c'est. Je veux savoir ce qu'elle est. Donc je prends la distance. Qu'est-ce qui me permet de prendre cette distance? C'est l'admiration. L'admiration naît du fait que je connais quelque chose et que beaucoup qui touchent cette réalité m'échappent. J'admire quand il y a quelque chose qui m'échappe. Quand je connais tout, je n'admire plus. On est blasé. Être blasé, c'est juste l'inverse de l'admiration. Moi, je connais. Moi, je connais. Et le petit gosse, quand vous... il faut montrer qu'il est déjà très intelligent. Oh, je connais. Mais j'ai déjà vu ça à la télévision. Ouais, tu l'as déjà vu à la télévision. Mais ça qui est terrible dans la télévision, c'est qu'on n'admire plus. Toute la différence entre la réalité, l'expérience de la réalité et l'expérience de la télévision ou du cinéma, on n'admire plus. Puisque c'est du vécu. C'est du digéré. Et c'est le pâté qu'on a déjà passé 3-4 fois. Et qu'on vous donne ça plutôt que de vous donner un bon beefsteak. C'est pas la même chose quand même. Hein. On n'admire plus le pâté, quoi. Le hachis, c'est le hachis qu'il faut dire, c'est pas le pâté. C'est plus admirable. On regarde, puis on vient, tiens. On voit toutes les petites parties. Plus d'admiration. On admire quand on est en face de quelque chose de un. Donc, c'est l'unité qui fait admirer. Oh, c'est tout extraordinaire. Cette unité. Oui, la première fois que vous avez vu, je ne sais pas quoi, un lézard. Du 12e siècle, qui disent que pour le démon, le Alors il fait des sièges en plus. Il faut retrouver un noviciat pour retrouver le stade de l'admiration. Il vient de Saint-Esprit. Et en devenant novice Saint-Esprit, on est capable d'interroger. Si vous devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est que l'enfant est très souvent en état d'admiration. Extraordinaire, ça. Le petit gosse qui regarde les lunettes. Oh. Quand les parents n'en ont pas, puis la première fois qu'ils voient des lunettes, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des phares. Ah, les gars, blasé. Tandis que quand il est tendu, ah, c'est autre chose. Eh bien, l'admiration, je veux dire, l'interrogation, c'est une intelligence tendue qui veut connaître, qui veut découvrir quelque chose de la réalité qu'elle a expérimenté, le quelque chose qui lui a échappé. Vous avez expérimenté ceci est, ceci existe, la vache existe. Le ceci, c'est la vache. Oh, vous n'interrogez pas sur la vache. On sait bien ce que c'est. C'est un animal qu'on connaît bien. Mais la vie, la vache existe, j'existe. L'admiration, l'état d'admiration, c'est ce que Raïssa appelle l'intuition. En réalité, c'est l'état d'admiration. Je suis dans un état d'admiration. De voir que la vache existe et que j'existe et que la table existe. Oh, c'est étonnant ça. Comment ça se fait que nous existons tous? Alors que j'ai l'impression que moi, quand j'existe, c'est ce qu'il y a de plus personnel en moi. C'est ce qu'il y a de plus actuel en moi, j'existe. Vous voyez? L'admiration éveille l'intelligence, éveille l'intelligence, interroge. Pas secoué. cher, tous les 10 prédicaments. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'être, est-ce que je peux identifier l'être à Pierre? Est-ce que je peux identifier l'être à homme, à intelligent, à la quantité, à la relation, au temps, au lieu, les 10 prédicaments? Je ne peux identifier l'être à aucun de ces prédicaments. C'est la première constatation que je dois faire. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Le TST, qu'est-ce que c'est que l'être? Quand je pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Je veux saisir ce qu'il y a de premier dans l'être. Ce qui résiste à tout le reste. Qu'est-ce? L'interrogation qu'est-ce conduit à découvrir la cause selon la forme. Or, la forme dans l'œuvre d'art, c'est ce qui détermine la matière. Et donc, je veux savoir quelle est la détermination la plus fondamentale de ma réalité, de mon exister, de mon être. Quelle est la détermination la plus fondamentale de la détermination de tel autre être? Il faut bien comprendre, hein, le sens de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, je reviens aux 10 déterminations classiques que je peux très bien comprendre immédiatement sans faire de philosophie, que tout le monde comprend. C'est l'état de la personne humaine au niveau des déterminations. C'est l'aspect quantitatif. C'est l'aspect quantitatif de la réalité. Pierre. Pierre, il est homme, il est intelligent, il pèse lourd, il a beaucoup de relations. Un nez proéminent, et ainsi de suite. Il a des cheveux remarquables. Parce qu'aujourd'hui, ça joue beaucoup. Alors, c'est ça qu'on met en vedette. Il est né à tel endroit. Il n'y a pas de carte d'identité, quoi. Une carte d'identité bien faite, métaphysiquement faite, ce serait les 10 prédicaments. On a inventé ça, vous voyez, la carte de l'européen. C'est les 10 prédicaments aristotéliciens. Carte aristotélicienne de l'identité de Pierre. Vous avez les 10 prédicaments. Alors, est-ce que, quand j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être, est-ce que je peux m'arrêter à un des prédicaments? Non. Aucun. Pourquoi? C'est très facile à comprendre. Je ne peux pas m'arrêter à Pierre. Parce que Pierre, c'est un individu. Il n'est pas ce qu'il y a de premier dans l'être. Parce qu'à côté de lui, il y a Jean, il y a Jacques. Donc il n'est pas l'être. Il est une réalisation de l'être. Mais il n'est pas l'être. Homme. Ah, c'est la nature de Pierre. Bon, c'est une détermination aussi importante dans l'ordre de l'être. C'est très important, homme, puisque c'est la réalité la plus parfaite. Ah, donc, je retiens ça. C'est premier. Tous les autres, c'est relatif. Même l'intelligence, c'est relatif. Au point de vue de l'être. Au point de vue de l'être, l'intelligence apparaît comme quelque chose de relatif à Pierre. Pierre est intelligent. C'est une qualité. La qualité, c'est très important, mais c'est relatif à quelque chose de premier. Voyez, quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux pas m'arrêter au prédicament. Mais je m'en sers prédicaments donnent déjà un petit travail. Les prédicaments ont ordonné, c'est un ordre, les prédicaments ont ordonné toutes les déterminations de Pierre, de Jacques, de Jean. Toutes les déterminations, ils ont. Alors, c'est intéressant quand même. Mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, je peux dire que toutes les déterminations secondaires, je les laisse tomber. Seules les déterminations premières, non relatives, m'intéressent. Et donc, c'est Pierre et homme. Pierre et homme sont des déterminations qui sont absolues, non relatives. Pierre, en tant qu'il existe, a son autonomie. Il subsiste en lui-même. L'homme, comme tel, ben oui, il n'est pas relatif. Il est telle détermination, tandis que tous les autres, relatifs. Donc, c'est pas premier. Or, je cherche qui est premier dans l'ordre de l'être. Et donc, il me reste ces deux déterminations. Je vais vite, hein, parce que nous l'avons déjà vu, ça. Du moins pour. Mais il faut tout le temps le reprendre. Ces deux déterminations, Pierre et homme. Est-ce que je peux m'arrêter à Pierre ? Est-ce que je peux m'arrêter à homme ? Non. Or, au point de vue de la table des prédicaments, on appelle Pierre substance première. Aristote l'a appelé comme ça. Et homme, substance seconde. C'est très intéressant qu'on a pris le mot substance. Le mot grec, ousia. Quand Ricoeur faisait un cours à la Sorbonne sur ousia, il traduisait non pas substance, mais étance. C'est très bien, mais c'est pas un mot français, c'est embêtant. Étance, l'étance. Plutôt que de dire étance, il faut me dire le grec, ousia. C'est vrai que ousia est lié à on, to on, l'être. Alors je comprends comment on met l'étance, c'est abstrait. Le mot latin a traduit substance, substantia. Alors là on voit tout de suite les deux génies, grec et latin. Traduire ousia par substance. Vous voyez tout de suite la différence. Substance n'est pas en référence avec être. Substance c'est quoi ? C'est substare. C'est ce qui se tient en dessous. Donc c'est fondement. Le fondement, c'est une fonction. C'est pas l'être. C'est une fonction. C'est ce qu'il y a de premier. Oui, c'est très vrai, c'est ce qu'il y a de premier. Mais ce qu'il y a de premier dans l'ordre constructif. Je mets d'abord les fondements. Alors, vous voyez, c'est très curieux. On voit le génie latin qui traduit tout du côté de l'œuvre. Ce que l'homme est capable de faire. Il fait le fondement. Et on a dit substance. Les mots, il faut comprendre leur signification, hein. Mais c'est toujours intéressant de voir l'étymologie. Je m'arrête pas à l'étymologie. Mais je comprends que l'étymologie a joué. Donc le mot latin substance n'est plus lié à l'être. Il est lié beaucoup plus à l'édification d'une œuvre en posé fondement. Mais il y a quelque chose de juste, hein. Parce que ousia, c'est ce qu'il y a de radical. Ah, peut dire que fondement, c'est ce qu'il y a de premier. Donc, c'est pas tout à fait faux. Hein. Fondement, ce qu'il y a de radical, ce qu'il y a de premier. Donc, ce que je cherche, c'est de saisir ce qu'il y a de premier, de radical dans l'ordre de l'être. Ce n'est ni la substance première, ni la substance seconde, mais c'est dans l'ordre de la substance. Et à partir de la substance première et de la substance seconde, la philosophie première, ou le philosophe, va induire ce qu'il y a de commun et de radical à la substance première et à la substance seconde. Il dira, voilà, voilà ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. C'est ce qui permet à pierre d'exister, ce qui permet à homme d'exister. Ce qui permet, c'est-à-dire le principe, ce par quoi la substance première est une réalité autonome, ce par quoi homme est aussi telle détermination. C'est par là que le philosophe induit la substance comme ce qu'il y a de premier dans ce qui est en tant qu'il est. Ce n'est plus la réalité concrète, singulière. Ce n'est plus la réalité abstraite, homme. C'est au-dessus de ce concret et cet abstrait. Parce que l'être n'est ni concret, ni abstrait. Il est la source du